VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 16h à Ouagadougou, 17h à Kinshasa. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui dans l'actualité africaine, en Somalie, attaque meurtrière revendiquée ce jeudi par les islamistes d'Al-Shabaab à Baïdoa. Ils ont pris d'assaut une enceinte fortifiée abritant le siège du gouvernement local, le QG de la force de l'Union africaine et des bureaux de l'ONU. Les premiers bilans font état d'au moins 12 morts, dont 5 insurgés. Jacques Aristide.
Les assaillants ont tiré sur plusieurs personnes à l'entrée du bâtiment avant d'y pénétrer, d'après son responsable à des forces de sécurité à Baïdoa. Trois d'entre eux sont morts en déclenchant les bombes qu'ils portaient sur eux et un quatrième a été abattu, tandis qu'un cinquième homme a été grièvement blessé d'après une source sécuritaire. Contacté par l'AFP, Abdulaziz Abou Moussa, porte-parole militaire du groupe Al-Shabaab, a revendiqué l'attaque, affirmant que le commando avait visé, dit-il, une réunion de sécurité entre le chef de l'exécutif régional, Sharif Hassan Sheikh Adan, et des responsables éthiopiens. Une source a déclaré que Sheikh Adan était sain et sauf. Il est depuis décembre à la tête du gouvernement intérimaire de la région sud-ouest, nouvelle autorité chargée d'administrer un ensemble regroupant les régions méridionales de Bé, Bakoul et de la Basse Chabelle dans le cadre du futur État fédéral somalien. Un référendum constitutionnel est prévu cette année avant les premières élections multipartites l'an prochain, un processus qui devrait doter à nouveau le pays d'une véritable autorité centrale dont il est privé depuis 1991.
Au Togo, la Cour constitutionnelle a validé hier soir la candidature du président sortant, Faure Gnassingbé. Plus d'explications avec Bagassi Koura.
Faure Gnassingbé briguera donc un troisième mandat le 15 avril malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Un projet de loi visant à limiter le nombre de mandats présidentiels avait été rejeté en juin 2014 par le Parlement où le parti au pouvoir est majoritaire. Jean-Pierre Fabre, considéré comme le chef de l'opposition togolaise à la tête de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, apparaît comme le principal rival de Gnassingbé pour ce scrutin. L'opposition togolaise est très divisée et peine à parler d'une seule voix portée au pouvoir par l'armée à la mort du général Eyadema, son père, qui a gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans jusqu'en 2005. Faure Gnassingbé a remporté en 2005 et 2010 des scrutins présidentiels aux résultats contestés par l'opposition.
Côte d'Ivoire, ouverture du procès devant le tribunal militaire d'Abidjan de 14 membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Par ailleurs, face aux critiques après le procès de l'épouse de Laurent Gbagbo, dans ce même contexte, le gouvernement ivoirien a démenti hier toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame ivoirienne pour les violences post-électorales. En Mauritanie, appel de 24 organisations de défense des droits humains et de la société civile. Un appel qu'elles font aux autorités mauritaniennes pour qu'elles gracient un jeune blogueur condamné à mort en décembre sous l'accusation d'avoir abjuré sa foi musulmane. Dans un article publié sur Internet, il avait critiqué l'utilisation de l'islam pour perpétuer le système de caste dans le pays. Michel Joseph.
Mohamed Mkhetir est la première personne à être condamnée à la peine capitale pour apostasie en Mauritanie. Durant son procès, le juge l'a accusé d'avoir parlé avec légèreté du prophète Mohamed dans son article. Mkhetir a expliqué que ce n'était pas du tout son intention et s'en est repenti. Selon la loi islamique, cela pourrait lui valoir la clémence de la justice. Le jeune blogueur a aussi interjeté appel et la Cour suprême pourrait le gracier. L'article de Mohamed Mkhetir avait suscité des manifestations de protestation dans l'ensemble de la Mauritanie, seule république islamique d'Afrique de l'Ouest. Pour Amnesty International, ce pays doit supprimer de son code pénal la criminalisation de l'apostasie, car cela va contre le droit international.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme s'est dit récemment préoccupé par le nombre croissant d'attaques contre les albinos, notamment dans les pays d'Afrique orientale. Au Malawi, la police a annoncé l'arrestation d'un homme de 45 ans qui a tenté de tuer un albinos dans un pays marqué déjà par 6 meurtres qu'on qualifie de rituel, des meurtres d'albinos depuis décembre dernier. En Tanzanie, ce sont plus de 200 sorciers qui ont été arrêtés depuis la mi-janvier. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police. Les organes des albinos, utilisés pour des rituels de sorcellerie ou dans la confection de filtres, sont vendus environ 600 dollars. Aux prétendus sorciers ou guérisseurs. Mi-janvier, la Tanzanie a annoncé l'interdiction de la sorcellerie pour tenter d'endiguer le phénomène.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La justice française va enquêter sur l'assassinat d'un arabe israélien commis par le groupe État islamique actif en Syrie et en Irak, impliquant un djihadiste francophone, a annoncé jeudi à l'AFP une source judiciaire. Sur les images d'une vidéo de Daesh, l'autre nom de l'État islamique, diffusée mardi dernier, on voit un djihadiste s'exprimant en français en compagnie d'un enfant d'une douzaine d'années qui semble exécuter avec un pistolet un homme présenté comme un espion d'Israël. De grandes ONG accusent jeudi la communauté internationale d'avoir trahi ses idéaux en n'ayant pas atténué la souffrance des millions de civils syriens dont la vie a été bouleversée par 4 années de guerre. Dans un rapport intitulé « Échec coupable en Syrie », 21 organisations de défense des droits de l'homme critiquent l'incapacité des États à faire appliquer une série de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à protéger les civils et prévoyant un plus grand accès à l'aide humanitaire pour des millions de Syriens. De hauts responsables américains mettent en garde contre l'écart croissant entre les dépenses militaires américaines et européennes. Un avertissement qui intervient au moment où les États-Unis déploient des tanks et des navires de guerre en Europe de l'Est, dans le cadre des opérations de formation et de mesures pour contrer l'expansionnisme russe dans cette région. Les précisions de Félix Yepassi-Zembrou.
L'OTAN a lancé à plusieurs reprises des avertissements au sujet de la menace que constitue la Russie depuis son annexion de la Crimée il y a un an et son ingérence continue dans l'est de l'Ukraine. Au sommet de l'Alliance Atlantique de l'année dernière, au Pays de Galles, les pays membres s'étaient engagés à consacrer au moins 2% de leur PNB à la défense. Toutefois, Lukács Kulessa du réseau européen de leadership affirme que, selon les analyses de son groupe, l'Estonie est le seul pays à même d'atteindre cet objectif en dehors des États-Unis. La Grande-Bretagne, alliée traditionnelle des États-Unis, figure parmi les pays pouvant rater l'objectif des 2% du PNB. Dans le même temps, la contribution des États-Unis à l'OTAN s'est accrue de manière soutenue, selon Lukács Kulessa. C'est plus de 70%, soit 20% de plus que durant la guerre froide. Et bien sûr, ce n'est pas sain, car cela amène certains pays à croire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de s'efforcer.
La progression de l'armée irakienne et des milices chiites a été ralentie jeudi dans Tikrit. Selon l'agence Reuters, des échanges de tirs sporadiques avec les combattants du groupe État islamique ont été signalés au lendemain de l'entrée des forces gouvernementales dans la ville. Enfin, ici aux États-Unis, au Missouri, dans la ville de Ferguson, théâtre d'un nouvel incident. Deux policiers ont été grièvement blessés par balle ce matin lors d'une manifestation devant le commissariat de la ville. Le chef de la police de Saint-Louis parle d'embuscade. Les détails avec Salwa Jaafari.
3 coups de feu provenant de quelque part derrière les manifestants. La foule panique. 2 officiers sont à terre. L'un touché au visage, l'autre à l'épaule. Ils sont aussitôt conduits aux urgences. Leurs blessures, quoique sérieuses, ne sont pas fatales, rassure le chef de la police de Saint-Louis. Le coupable ou les coupables sont toujours en cavale et les autorités n'ont pas encore fourni d'éléments de réponse quant à leur identité. Hier, le chef de la police locale, Thomas Jackson, a annoncé sa démission après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui détaillait les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson. L'annonce n'a pas suffi à calmer les esprits. Quelques heures plus tard, 60 de personnes s'étaient rassemblées pour protester devant le commissariat. L'incident d'aujourd'hui risque d'envenimer un climat déjà très tendu dans la ville. Ferguson a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et d'émeutes après la mort le 12 août d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué de 12 balles par un policier, Darren Wilson, qui a depuis quitté la police sans être poursuivi.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur